Bonjour tout le monde, bienvenue à Bien comme un podcast, un podcast où est-ce qu'on se pose différentes questions afin de mieux comprendre les différents enjeux environnementaux du 21e siècle. Donc là, aujourd'hui, Eric, on a été accompagné de Jean-François Clich,
yes,
qui est un journaliste scientifique. Okay? Puis avec lui, on voulait avoir plus d'informations un peu sur c'est quoi la désinformation, plus spécifiquement la désinformation climatique.
Exactement.
Là, on a abordé plein de sujets, puis pas juste finalement la désinformation climatique, on a aussi parlé juste de la désinformation. Moi, un point très important que je retiens, c'est que avoir de l'information de qualité, ça demande quand même du temps. Ça ouais. demande des recherches, comparer les sources, croiser les sources, tout ça. Mais heureusement, il y a des gens qui le font déjà pour nous, justement les journalistes. Donc, on est chanceux d'avoir ces personnes-là qui nous permettent de sauver beaucoup de temps pour avoir une information de qualité.
Exact. Parce que, tu sais, moi, pourquoi on voulait traiter de ce sujet-là, c'est qu'ultimement, l'information, en tout cas pour moi, tu sais, c'est comme la base de l'action qu'on va porter par après, tu sais. Ouais. Fait que ça serait justement que les éléments qui nous sont mis de l'avant, ben, on y croit, puis c'est bel et bien viable. Je pense que c'est super important en termes, justement, d'action climatique.
Ouais, puis notre podcast repose là-dessus. Nous, ouais, on met de l'avant, exact. On veut mettre de l'avant de l'information de qualité, puis ensuite de ça, les actions suivront, mais la prémisse initiale, c'est que tout repose sur l'information.
Exact. Fait que, tu sais, ce qu'on a appris en gros dans ce podcast-là, comme Éric l'a dit, ben, c'est super intéressant que, tu sais, d'une part, il y a des gens qui font ce travail-là de recherche, de croisement des sources, comme des journalistes scientifiques à qui, justement, on peut se fier par rapport à l'information qui est mise de l'avant. Moi, j'ai aussi appris l'espèce de rôle, le rôle prépondérant, l'importance de tout ce qui touche à l'aspect sociologique de l'être humain. On est des êtres, justement, sociaux qui veulent l'approbation des gens souvent. Fait que, tu sais, souvent, l'humain va avoir la tendance, si tu veux, naturelle à vouloir bien parler, à peut-être pas vouloir revenir sur ses pas ou changer d'idée. Fait que ça, on a vu justement par rapport à certaines informations climatiques, peut-être des climato-sceptiques, mais bon, ils prennent une direction, une tangente, fait qu'ils vont la maintenir. Fait qu'il y a certains biais sociaux, sociologiques à ce niveau-là qui entrent en jeu. Fait que c'est intéressant de voir que justement, ultimement, c'est pas nécessairement les gens qui vont tendre à ne pas croire une information par manque d'information. Souvent, c'est beaucoup les aspects justement sociaux, d'approbation sociale, de psychologie qui font en sorte que ben certaines informations, ben, on prendra peut-être pas le temps d'aller la valider, mais on veut y croire. Fait que c'est pas intéressant là, d'avoir parlé à Jean-François pour ça.
Ouais. Bon, mais bonne écoute, tout le monde. Bonjour, Jean-François Clich.
Salut,
bienvenue
les gars.
À Bien comme un podcast.
Salut, les gars. Merci de me recevoir.
Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, aujourd'hui, on veut parler de la désinformation, plus spécifiquement la désinformation climatique.
Mm-hmm.
Je vais te laisser te présenter pour commencer, puis ensuite, on ira de l'avant avec ce sujet-là.
Ben donc, mon nom est Jean-François Clich, je suis journaliste scientifique pour Le Soleil, je couvre la science pour Le Soleil, ben je suis chargé au Soleil en 2001, mais je couvre la science depuis peut-être fin 2006, début 2007, dans ce coin-là. Et donc, à ce titre-là, ben, si vous voulez parler de désinformation en climat ou de désinformation générale, je les ai pas mal toutes faites là, depuis une quinzaine,
t'es la bonne personne,
20 ans, là, ouais. Je les ai pas mal toutes faites. Comme ils disent dans Astérix, j'ai fait Alésia, moi, monsieur.
OK, ben parfait. Merci beaucoup, en tout cas, de nous rencontrer aujourd'hui. Éric, je vais te laisser y aller avec la première
ben oui,
question.
Écoute, c'est sûrement qu'elle en a la première question. J'y vais d'entrée de jeu. Bon, la désinformation climatique, complètement, ben c'est quoi, en fait, concrètement, ce terme-là? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ben, c'est simplement de la désinformation à propos du climat. Je veux dire, il y a de la désinformation sur les vaccins, il y a de la désinformation sur les vitamines, il y a de la désinformation sur... C'est l'économie sur ouais. plein des affaires, ben, il y en a sur le climat aussi. Là,
puis moi, le terme désinformation, ça veut dire quoi? C'est que c'est de la mauvaise information? Qui...
Ben, il y a toutes sortes de définitions. Le classique, c'est de définir, c'est de faire une distinction entre désinformation et mésinformation.
Ouais.
La différence entre les deux étant que la mésinformation, c'est faux, mais c'est involontaire et la désinformation serait volontaire. Jusqu'à un certain point... Ça peut être utile comme distinction, mais pas autant que... Tu sais, c'est pas aussi clair que ce qu'on penserait a priori. C'était dit comme ça en théorie, ça a l'air bien clair, ben, ouais. ben net et tout. Mais si la base de la distinction, c'est les intentions, ça n'est dans la tête de ceux qui propagent les informations, mes informations, des informations. Dans leur tête, c'est pas toujours aussi clair que ça. Là. Est-ce que quelqu'un le sait vraiment ou est-ce que c'est juste un petit doute ou est-ce que c'est quelqu'un qui, oui, au début avait peut-être un doute, mais ça rentrait dans ses a priori, dans ses préjugés de départ. Fait que là, cette personne-là s'est auto-convaincue que oui, OK, ça fait mon affaire, donc c'est vrai. Tu sais, c'est jamais aussi clair que ça.
C'est ça, c'est-à-dire là, les personnes qui propagent une information X... que ce soit de l'information, de la désinformation, de la mésinformation. Tu sais, pour eux, souvent, ce qu'ils disent, c'est vrai. Donc là, comment est-ce qu'on sait si une information est bonne ou fausse, si on veut? Est-ce que c'est par rapport à la science? C'est par rapport à des études?
Le type de source, peut-être?
Ouais, mais je...
Ben oui, c'est ça que j'allais dire. C'est peu importe sur quoi l'information, la désinformation porte, le truc, c'est toujours le même. Le truc de grunt, là. C'est-à-dire le travail un peu de brut, un peu abrutissant de trouver des sources,
ouais,
les croiser, évaluer les sources. Puis une fois que tu as 2, 3, 4 sources fiables qui disent la même chose, là, tu peux vraiment le croire. Là, ça devient vraiment
solide. Des études scientifiques.
Ça peut être des études scientifiques, ça peut être des revues de littérature, ça peut être des sites qui, tu sais, mettons, associés à une unité de recherche en climatologie qui vont résumer la littérature scientifique. Ouais. Ça peut être un climatologue ou un physicien de l'atmosphère qui va faire un topo sur le sujet qui t'intéresse. T'sais, bon, ça peut être bien des affaires. La petite difficulté là-dedans, c'est que... Puis ça, quand moi, je fais... des chroniques vérification faites où les gens donc m'envoient la question pour que je vérifie si c'est vrai, si c'est faux.
Ouais.
Et quand moi je fais ça, donc je le fais, ce que je viens de dire là, c'est ma job là. Tu sais, je fais ça à longueur de semaine. Et la difficulté là-dedans, c'est que tu sais, pour évaluer si une source est bonne, faut connaître le sujet. Puis pour connaître le sujet, ben faut avoir des bonnes sources. Fait que il y a un peu l'œuf ou la poule au départ. Fait qu'il faut faire un peu les deux de front. Fait que c'est un peu ça la difficulté. Mais ça reste juste une question de travail et d'heures que tu mets dedans à lire, trouver d'autres sources, recouper, tu sais, puis trouver les critiques des autres et voir si ça s'est bien reçu chez ceux qui s'y connaissent et tout. Fait que tu sais, c'est vraiment une question d'heure, là, souvent.
Là, tu dis qu'il faut aussi connaître le sujet pour savoir si la source est bonne. Est-ce que ça veut dire que certaines sources sont expertes pour un sujet quelconque, mais s'ils se prononcent sur un autre sujet, c'est peut-être plus une bonne source?
Ben oui, c'est toujours comme ça pour tout, là. Je veux dire, si pendant la pandémie, j'interviewais pas des climatologues sur les vaccins ou sur les virus.
Idéalement.
C'est ça.
Les climatologues sont des gens brillants. Ils m'auraient sans doute dit des choses brillantes, bien que pas particulièrement bien documentées sur le sujet. Mais bon, c'est comme ça pour tout, là.
C'est pas à cause que t'es un expert dans un domaine que tu l'es pour tous les autres domaines. Ça, faut faire attention.
Exact. Sauf sur Internet. Quand tu connais quelque chose une fois sur Internet, tu connais tout le reste.
Le fameux, ben qu'est-ce que tu penses de ça, le fameux? Ouais, j'ai entendu ça sur TikTok.
Ah non, ben ça, je veux dire, c'est je suis payé pour faire... Je suis payé pour les vérifier, celle-là, là. Mais non, effectivement, je veux dire, sur TikTok et les réseaux sociaux, de manière générale, les fameux influenceurs, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, là, ne serait-ce que parce que je les connais pas tant que ça, les influenceurs. Moi, j'ai jamais vu l'intérêt.
Ça dépasse un peu.
Je suis peut-être déjà devenu trop vieux pour ça, là. Mais les fameux influenceurs, souvent, sont certains sont bons et intéressants et disent des choses brillantes, là, et le font de façon responsable, mais il y en a un paquet qui sont, en jargon technique, des connards narcissiques, là, qui font rien d'autre que d'attirer l'attention sur eux un peu n'importe comment, de façon totalement irresponsable.
Peu importe ce qu'ils disent.
Ouais, c'est ça, ils jugent un contenu sur le nombre de clics ou d'argent que ça va leur rapporter plutôt que sur sa véracité.
C'est ça qui est plate un peu aujourd'hui. Du moment que t'amènes des yeux vers toi, ça va tendre à générer des revenus. Justement, la visibilité va être associée souvent avec de l'argent. Ouais. Fait que c'est fou. Puis tu sais, le sujet de la désinformation climatique, on en parlait un peu, Jean-François, avant de commencer l'enregistrement. Et tu sais, ce qui m'a amené à vouloir aborder ça, c'est que dans le cadre d'un cours, justement, à la maîtrise que je fais, on a fait un gros travail là-dessus. Puis tu sais, ultimement, une information que je trouve ben cool puis moins cool, là, que j'avais découverte en faisant des recherches. Écoute, je sais pas si mes sources sont bonnes, là, mais on avait fait une certaine diligence à ce niveau-là. Là. C'est que justement, les jeunes particulièrement, c'est plus axé sur les jeunes, ce qu'on avait fait, nos recherches, ils vont tendre à croire une information, puis c'est directement lié avec le niveau de confiance de l'influenceur, en fait. Fait que plus, mettons, la personne qui met de l'avant le message va être confiante en elle-même, que ce soit vrai ou non, plus les gens vont tendre à y croire, plus les jeunes ici, selon ce que j'avais trouvé.
Et il y a plusieurs études qui montrent que ce niveau d'assurance-là vient et est inversement proportionnel aux connaissances.
Ah ouais. Plus, donc, moins t'as de connaissances, plus tu vas être confiant.
Ce qui va ensemble, parce que si t'es très confiant, puis ça vient un peu avec le narcissisme aussi, là. Mais si t'es très confiant, ben tu feras pas d'autres recherches. Tu te remets pas en question, t'essaies pas de vérifier. T'es juste confiant. C'est moi qui le dis, donc c'est vrai. Et bon, t'sais, ça fait que ça vient ensemble.
Okay. Ouais, ça fait du sens. Puis aussi, je pense que souvent, peut-être ces personnes-là vont avoir des propos très tranchés, peu nuancés.
Ouais.
Puis ça vient aussi chercher plus les gens. Les gens ont tendance à plus s'accrocher à des propos tranchés qui sont soit blancs ou soit noirs que des propos nuancés, parce que ça demande peut-être plus de réflexion quand c'est nuancé, puis ça demande un effort supplémentaire. Donc,
oui, mais ça, je dirais, c'est pour le producteur de contenu, entre guillemets, là, comme on les appelle des fois, là, pour la personne qui fait le contenu, c'est plus d'efforts aussi de faire de la nuance, puis de bien l'expliquer, puis de faire en sorte que ce soit intéressant avec un fil conducteur, parce que c'est ça qui va regarder le public dans ton texte, dans ton topo. Donc, il faut que ce soit structuré, il faut que tu aies vraiment pensé à ton affaire. Ça, c'est plus. Alors que c'est plus de travail que de juste faire une réaction un peu sur la gueule, là, tu sais, de bien carré, un peu crinqué, puis tu fais un peu tu fais un peu l'acteur, là, tu sais, puis bon, ça, c'est beaucoup moins de. Il y a des radios qui font juste ça, là, mais c'est plus de travail quand tu veux vraiment faire de la nuance.
Fait concrètement, mettons, dans notre day-to-day, là, mettons justement moi, justement au changement climatique, ça m'intéresse. Quelles sont les bonnes façons de faire pour m'assurer que l'information que je consulte est viable, bref, est bonne?
Ben, c'est comme j'ai dit, croiser les sources. Ben, en fait, il y a deux versions, là. Il y a deux versions de ça. Il y a la version, tu crois ce que les experts disent, tu crois ce que les climatologues disent, puis s'ils disent que ben oui, le réchauffement réel est causé par l'activité humaine et tout, ben je vais le croire. C'est pour ceux que tu sais qui veulent juste savoir la conclusion et qui ne jugent pas, qui ne sont pas intéressés par le détail, les mécanismes derrière, peut-être pas ben go for it là, tu sais, je veux dire, on a juste une vie à vivre. Et on veut peut-être pas tous la passer à se taper des textes techniques. Mais pour ceux qui veulent vraiment se faire leur idée et tout, ben là, il s'agit de, comme j'ai dit, trouver des sources, croiser les sources, plusieurs sources fiables qu'on croise et qui disent la même chose. Puis c'est comme ça qu'on. Et ça, souvent, là. Ça, c'est du temps, là. Ça prend du temps à faire.
C'est ça.
Et monsieur, madame, tout le monde, souvent la clé de voûte de ces mythes-là et ce qui leur permet de se propager pendant longtemps, c'est que les. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde, le samedi après-midi, entre la cinquième brassée de lavage puis la batch de sauce à spaghetti, ils ont ni le temps ni l'intérêt pour downloader ce genre de texte-là. Il a passé des heures et des heures là-dedans, là. Tu sais. La preuve en est que, tu sais, c'est pour ça que je vous ai donné rendez-vous un samedi matin à 7h30.
Oui, c'était pour pouvoir. On s'est levé très tôt.
Justement, c'était pour pouvoir faire ma sauce à spaghetti puis mon lavage tout le reste de la journée, tu sais. c'est pour ça que les gens n'ont pas le temps. Fait que, tu sais, ceux qui veulent prendre le temps, ben faites-le, mais tu sais, ça faut vraiment croiser les sources et s'assurer d'en trouver plusieurs fiables.
Mais tu sais, sinon, la façon facile, accessible et légitime de le faire, c'est justement de s'assurer que la personne qui met de l'avant l'information est experte dans ce domaine-là.
Oui, effectivement, ça. Effectivement. Puis ça, bon, il n'y a pas juste des experts en climat. Bon, il y a des climatologues, il y a des physiciens qui travaillent pour des universités et tout. Mais tu sais, dans les climato-sceptiques, je vois quand même beaucoup de... informaticiens, économistes. Bon, des gens qui savent jouer avec les chiffres, qui ont une certaine compréhension des maths, mais qui, c'est pas vrai que pour les processus physiques et tout, c'est des experts. Puis ça,
exact. C'est pas parce que t'as des connaissances dans un domaine spécifique, puis tu sais, t'es capable justement d'avoir une certaine intelligence à cet égard-là, qui était nécessairement connaisseur dans tous les domaines.
Exact. Et ça, c'est un classique que j'ai vu vraiment de nombreuses fois pendant la pandémie. Là, tu sais, des gens qui me disaient non, je suis pas un expert dans l'effet des masques ou l'effet de ce genre d'affaires-là, mais tu sais, j'ai beaucoup étudié les systèmes complexes et donc il y a des similitudes. Ben, c'est OK. Oui, il y a des similitudes, mais c'est pas vrai que c'est la même affaire.
Ouais.
Toi, t'es physicien. Ça, c'est des masques, c'est de la santé publique. Puis là, tu contredis ceux qui se connaissent pas vrai. Fait que
c'est ça.
Fait que ça revient à ce qu'on disait plus tôt, être un expert dans un sujet donné ne fait pas de toi un expert dans tous les autres sujets ou dans d'autres sujets qui sont pas directement reliés.
Exact. Et aussi, encore une fois, tu sais, les vrais experts, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que ça contredit ce qu'eux disent?
Ouais.
Croiser les sources, la base du journalisme.
Okay, super. Puis si on regarde, là, on parle plus de désinformation climatique, on pourrait-tu sortir des, mettons, peut-être un ou deux exemples de désinformation climatique qui a eu lieu, puis c'est quoi l'impact de cette désinformation-là?
Bien, sur les impacts, c'est toujours un peu les mêmes, là, ça reste, c'est-à-dire retarder l'action. Oui.
Ouais.
Un ou deux exemples, ben, tu sais, bon, le fameux, les fameux, la fameuse idée que le climat a toujours changé.
Oui, on l'entend beaucoup, celle-là.
Et que ben, c'est peut-être juste une variation naturelle.
C'est cyclique,
et
ouais,
tout.
C'est cyclique, genre.
Ben, ça, la réponse à ça, c'est que quand on sort d'une glaciation, parenthèse, chose que nous ne sommes pas en train de faire, ça fait 20 000 ans que non, 12 000 ans, je pense, 12-15 000 ans que le maximum glaciaire est dépassé et on en était sorti. Mais quand on sort d'une glaciation, tu sais, le climat prend entre 5 et 8 degrés Celsius sur je sais pas combien de milliers d'années. Là. À l'heure actuelle, c'est à peu près un degré par siècle, quelque chose comme ça. Comprendre, c'est quelque chose comme 10-15 fois plus rapide. Donc, il y a ça.
Fait que la prémisse initiale de le climat change et a toujours changé, ça, en tant que tel, c'est probablement vrai, parce que ça a toujours changé un petit peu.
Oui.
Mais c'est juste que là, ça change beaucoup plus, et c'est ça qui est alarmant.
Et encore une fois, tu sais, ça, là, c'est vraiment un classique de la désinformation et de la mythologie. Et ça en fait, quand il y a une base dans la réalité factuelle, ça en fait des mythes qui ont la couenne dure, vraiment, qui sont plus difficiles, qui vont persister beaucoup plus. Si on veut un autre bon exemple assez fréquent, là, de mythes qui ont la couenne dure aussi, c'est l'idée que ce serait peut-être l'activité solaire. D'abord, on la mesure. Elle n'a pas augmenté, elle n'a pas changé assez pour expliquer, même pas proche, les changements climatiques qu'on voit. Et deuxièmement, ben il y a le changement climatique, le réchauffement a des caractéristiques qui sont absolument incompatibles avec une origine solaire, là. D'une part, puis ça, c'est intéressant parce que je vais ouvrir une petite parenthèse parce que, tu sais, des fois, quand on parle de climat et de désinformation, puis comment ça se fait que les gens y croient ou n'y croient pas et tout, tu sais, souvent, on va demander, dans les médias en tout cas, on va demander un peu un acte de foi. Là. Les climatologues disent ça, donc c'est ça qui est vrai. Ouais. Mais on n'explique pas pourquoi. C'est sûr que si les climatologues le pensent, ce qui est raisonnable, la chose rationnelle à faire, c'est de les croire. Là. C'est eux qui se connaissent. Mais ça reste quand même un acte de foi. Donc, si je fais juste vous dire, ben non, c'est pas c'est pas le soleil parce que les climatologues disent que c'est pas ça. Oui, OK, ça va, mais c'est pas particulièrement convaincant. Cependant, si je dis, ça peut pas être le soleil, parce que si c'était l'activité solaire qui avait augmenté, ben on verrait une augmentation de la température qui est plus forte pendant le jour que pendant la nuit, parce que pendant le jour, c'est le soleil qui est la principale source de chaleur. Pendant la nuit, le soleil est pas là. Là, c'est c'est l'effet de serre, c'est l'infrarouge que le sol, tu sais, la chaleur est accumulé pendant la journée sous l'effet du soleil qui est gardé par les gaz à effet de serre. Mais c'est pas ça qu'on voit. C'est pas, dans les mesures, c'est pas pendant le jour que ça se réchauffe le plus, c'est clairement pendant la nuit que ça se réchauffe le plus, ce qui est entièrement cohérent avec l'idée que c'est un effet de serre qui augmente, là, que c'est ça la cause du réchauffement. Puis un autre aspect de tout ça, une autre caractéristique du réchauffement, c'est que si ça avait été l'activité solaire qui était en cause, toute la colonne d'air de l'atmosphère se réchaufferait à peu près égal. Ça n'est pas le cas. Ce qu'on voit, c'est que proche du sol, les premiers kilomètres, là, oui, ça se réchauffe beaucoup. La couche par-dessus se refroidit. Ce qui est aussi cohérent avec l'idée que, d'une part, l'activité solaire n'a à peu près pas changé, et d'autre part, donc, on n'a pas plus d'énergie dans le système, mais si on en garde plus proche à cause de l'effet de serre proche du sol, ben par-dessus, il va rester moins d'énergie. Donc, ça va refroidir. Donc, si j'explique ça, Là, ça devient beaucoup plus convaincant que de dire les climatologues, les climatologues pensent ceci. Parce que là, j'ai fait comprendre pourquoi ils le pensent.
C'est factuel. Tu rattaches plus l'information à la personne qui la met de l'avant. C'est factuel, c'est indépendant, justement, oui, de la personne qui le dit.
Exact, exact. Donc ça, c'est, quand on fait comprendre, c'est toujours plus convaincant, mais bon, ça, ça demande plus de travail. Là.
Puis encore là, tu sais, faire comprendre un sujet aussi complexe en quelques minutes, c'est pas vraiment possible. En tout cas, moi, j'ai de la misère, même s'il y avait plein de faits intéressants, tout ça, c'est le travail demande, tu sais, ça demande beaucoup plus de travail que juste deux, trois faits pour venir prouver hors de tout doute un réchauffement ou quoi que ce soit d'autre. Là. Mais tu sais, ça, les climatologues ont passé par ce processus-là, puis eux autres ont fait le travail.
Oui, non, mais... effectivement. Puis ça a été fait dans les années 70-80. Ça me fait toujours un peu rire quand il y a des climato-sceptiques qui disent qu'on ne peut pas débattre. Le débat n'a pas... Ben oui, le débat a été fait. Ça fait 40 ans qu'il est terminé. tous ces arguments-là ont été démontés il y a 40 ans. Mais tu t'accroches après, vas-y autant que tu veux. Mais...
Ça a été revu en masse. Là, puis,
en masse, effectivement.
J'ai une question par rapport à ça. T'sais, moi, l'espèce de la psychologie, ça m'intéresse beaucoup. Puis quels sont justement peut-être les biais psychologiques qui font en sorte? Parce que moi, je suis quelqu'un de super rationnel dans la vie. Fait que j'ai de la misère à comprendre qu'on croit pas, si on veut, des faits. Quels sont les biais psychologiques qui rentrent en ligne de compte pour justement avoir des climato-sceptiques aujourd'hui?
Il y a de la psychologie. Je ne suis pas sûr que c'est l'explication la plus importante, cependant. Tu sais, il y a beaucoup de... ces mécanismes-là ont été très étudiés là, depuis une bonne quinzaine, sinon une vingtaine d'années. Puis il y en a, bon, y a de toutes les sortes. J'ai mentionné le narcissisme. Tu sais, un narcissique, donc quelqu'un qui a une extrêmement haute... opinion de lui-même, du moins en apparence, va par définition avoir beaucoup de misère à se corriger. Fait qu'à partir du moment où un narcissique part dans mauvaise traque, et encore, un narcissique, les narcissiques peuvent avoir des comme une espèce de besoin de se sentir unique. Fait que là, ils iront pas répéter la même chose que tous les climatologues. Pour se sentir unique et intéressant, ils vont dire d'autres choses. Tu sais, bon, il y a ce genre de mécanisme-là. Il y a aussi le recours à la pensée intuitive là, versus la pensée analytique. Tu sais, la pensée analytique, c'est la pensée très lente et qui très exigeante et qu'on ne peut pas... on ne peut pas déployer tout le temps. Là, tu sais, je veux dire, le matin, on peut pas commencer à se demander qu'est-ce que je vais manger ce matin, qu'est-ce que les études disent au sujet du café, est-ce que j'ai assez de ceci, je devrais peut-être peser. Non, tu sais, on n'arriverait jamais au bureau là si on faisait ça. Donc, d'où le recours à la pensée intuitive, tu sais, où les décisions sont faites très instantanément, un peu intuitivement justement, sur la gueule. Et ça, ces deux types de pensées là ne sont pas répartis également chez tout le monde. Il y en a qui sont plus du côté analytique, d'autres qui sont plus du côté intuitif, et ceux qui sont plus du côté intuitif vont être un peu plus vulnérables quand même en moyenne à la désinformation. Cela dit, comme j'ai dit, les facteurs psychologiques ne sont peut-être pas si éclairants que ça sur, entre guillemets, l'épidémie de désinformation là, les succès de la désinformation, parce qu'il y a beaucoup de facteurs plus sociologiques derrière. Il y a des groupes, par exemple, qui... tu sais, ça devient toujours, à la base, la question de qui je crois, qui je choisis de croire. Parce que personne ne peut faire plein de lectures sur toutes les questions. Fait qu'à un moment donné, puis même quand on fait plein de lectures sur ces questions, à un moment donné, on finit par choisir... ceux-là, je les crois, ceux-là, je les crois moins. Tranche, ouais. Fait que, qu'est-ce qui fait qu'on va choisir de croire des climato-sceptiques ou des gens qui répandent de la désinformation plutôt que souvent des scientifiques qui ont, je veux dire, les diplômes et dont l'expertise est très manifestement supérieure et tout? Qu'est-ce qui va faire ça? Qu'on va faire ce genre de choix-là? Ben ça, souvent, ce sont... Bon, il y a les facteurs psychologiques, mais il y a les facteurs... plus sociologique. Comme je disais, par exemple, il y a certains groupes qui vont avoir, pour des raisons historiques et encore peut-être des fois dramatiquement actuelles, vont avoir connu toutes sortes de discriminations. Et peut-être aussi même de pire que ça, là. Tu sais, si on pense aux Afro-Américains ou aux Autochtones au Canada, qui ont subi par exemple, qui ont même servi de cobayes dans certaines expériences médicales, historiquement, dans un passé pas si lointain que ça, là, ça fait pas 200 ans, là, tu sais, genre 60, 50. Ouais. Tu sais, ça, ce genre de choses-là, ça laisse des traces dans une communauté, dans la mémoire d'une communauté. Puis après ça, ben, quand t'as un passé comme ça, puis que t'sais, peut-être t'as eu un oncle ou une tante ou t'sais, qui a vécu ça, puis qui
t'sais, c'est la science ultimement qui a causé ça.
Effectivement. Et là, ben tu vas après ça, quand cette même science-là t'a dit, ben va te faire vacciner, ben ou peut-être pas là. T'sais. Ou d'un autre côté, t'sais, je me souviens pendant la pandémie, plusieurs fois j'avais vu dans des médias américains, comme le New York Times, des récits. De gens d'Afro-Américains, tu sais, un peu partout aux États-Unis, qui vivaient dans des HLM, dont l'État était supposé s'occuper, mais qui, en fait, l'État négligeait grossièrement depuis des décennies, et qui envoyait leurs enfants à l'école publique, qui est aussi grossièrement négligée et qui était plutôt un cirque, dont l'État se foutait grosso modo. Et après, à part de ça, ben, leurs principaux contacts avec l'État, ben, c'était quand ils se faisaient profilé racialement, puis arrêté par la police sans raison, tu sais. Puis après ça, quand ce même État-là va leur dire, ben, on a fait un vaccin pour vous autres, ben, après ça, là, ces personnes-là vont dire, yeah, right. Tu sais, je veux dire,
Mais t'as aucune confiance
non, en ça. Non, c'est ça. Il y a une confiance dans les institutions qui, pour différentes raisons, comme dans certains groupes en particulier, va être beaucoup moindre. Donc, t'as une crise de confiance envers les médias, mais envers les institutions en général, les institutions politiques, qui occurrent depuis des années dans nos sociétés. Donc, tu sais, t'as des facteurs sociologiques comme ça, là, qui entrent en ligne de compte et qui, je pense, sont... qui sont peut-être plus...
prépondérants,
plus, mettons. Oui, plus prépondérants, plus importants, plus explicatifs.
C'est intéressant, fait que dans le fond... Tu sais, c'est cool, je voyais pas ça de même, mais dans le fond, c'est comme indépendant de l'information elle-même qui est mise de l'avant.
Oui.
Le groupe qui le met de l'avant, ça va influer justement si les gens vont tendre à croire l'information ou non.
Oui, puis ça a toujours été comme ça. Tu sais, quand la recherche sur la désinformation, puis pourquoi les gens y croyaient, ils croyaient pas, a commencé, ben l'hypothèse de départ, c'était ils appellent ça l'hypothèse du déficit d'information. C'est-à-dire, on pensait, un peu très naïvement même, que les gens croyaient à la désinformation parce qu'ils n'avaient pas eu accès à la vraie information.
Ouais.
Et que si tu les mettais en contact avec les vraies infos, ils allaient updater leur...
Ouais.
Mais je veux dire, le cerveau humain n'a jamais été fait comme ça, là. Le cerveau humain, notre tendance, malheureusement, c'est que quand on part dans une traque, on n'aime pas ça se corriger.
On veut le garder autant que possible.
Il y a comme un coup pour l'ego à admettre qu'on s'est trompé, puis la mise à jour, admettre qu'on s'est trompé, c'est pas si facile que ça. Une des choses dont je me suis rendu compte pendant la pandémie, c'était à quel point c'est sous-estimé et jusqu'à un certain point précieux le fait d'être capable de changer d'idée. Le nombre de gens que j'ai vus qui partaient dans une traque et qui faisaient juste s'y enfoncer de plus en plus profondément, ça en est triste, là. Ça en est triste, mais...
Tu trouves les informations qui te plaisent pour alimenter ton point de vue, même si elles sont pas nécessairement vraies.
Oui, effectivement, ça, c'est ce qu'on a tendance à faire. Naturellement, le cerveau humain, c'est ce qu'il a tendance à faire. Mais tu sais, c'est ça, la faculté de changer d'idée, souvent, c'est sous-estimé parce que... T'sais, les relationnistes, les politiciens se traitent de girouettes quand ils changent d'idée.
Ouais.
Ils ont parfois raison à cet égard, mais hormis ça, la faculté à être capable de laisser rentrer des nouveaux faits, laisser rentrer des nouvelles données, puis d'ajuster ce qu'on pense, cette espèce de plasticité-là, elle est vraiment précieuse.
Ça, c'est d'avoir un esprit critique au final, là. C'est que tu remets un peu en doute tu remets en doute tes connaissances actuelles. Puis tu la regardes par rapport à des nouvelles données ou de la nouvelle information?
Ben comment je vois ça, moi, c'est que c'est de l'humilité. Ça doit être une certaine humilité de dire « Oui, peut-être que j'ai tort », d'être ouvert à se questionner puis justement de ne pas avoir raison.
C'est peut-être plus ça que de l'esprit critique. Parce que, tu sais, moi, personnellement, les climato-sceptiques, les anti-vaccins, ils ont de l'esprit critique en masse, là. C'est juste qu'ils ne... tu sais, il y a un jugement peut-être dans l'application de leur esprit critique ouais. qu'ils n'ont pas. Mais c'est peut-être une distance par rapport à la faculté de garder une distance par rapport à ce qu'on croit savoir, ce qu'on croit ne pas savoir, par rapport à ses propres opinions. C'est un peu comme toutes les facultés et les qualités, là, c'est inégalement réparti chez le monde. Là.
Ouais, mais moi, je me demandais, là, ce que je me suis rendu compte, c'est que ben, je te pose la question, une question ouverte. Là. Est-ce que la désinformation climatique en soi, c'est pas pire que le réchauffement climatique, dans le sens où le fait de débattre à savoir ce qui est vrai ou non, ben, ça retarde notre action?
Ben, l'un va avec l'autre. Là. Je vois pas trop comment faire de gradation, lequel est le pire ou pas. Là. Ouais. Ben oui, effectivement, là, ça retarde l'action. Comme n'importe laquelle. C'est n'importe quelle désinformation va orienter l'action après.
C'est ça.
Okay. Vers des choses qui sont moins rationnelles, moins rationnelles.
Fait que ça amplifie le problème au final.
Ouais, ça amplifie le problème, ça retarde la solution.
Ouais. Puis là, on parlait tantôt des sources d'information. On aurait-tu une source centrale à laquelle on pourrait se tourner, puis on sait que l'information qui vient de là, infiable, pour quelqu'un justement qui veut pas toujours passer par le processus complexe d'évaluer toutes les différentes sources, tout ça, y a-t-il une place centrale à laquelle on peut se fier?
Ben, en climat, il y aurait le consortium Ouranos au Québec, mais qui font pas tant de vulgarisation, ils font pas tellement de vulgarisation. Une chose qui est un peu plate là-dessus, au Québec en particulier, dans le monde anglophone, c'est beaucoup moins le cas, c'est que dans le monde anglophone, surtout aux États-Unis, où ils ont une longue tradition les universités d'avoir des mécènes et tout, à cause de ça, les universités vont faire, puis dans toutes les disciplines, vont faire beaucoup plus de ce qu'ils appellent de outreach. Là. Donc, essayer de vulgariser qu'est-ce qu'ils font. T'sais, chaque laboratoire va avoir une page sur sa page web, là, t'sais, sur son site web. Voici ce qu'on fait, expliquer à monsieur et madame tout le monde. Il y a vraiment cette tradition-là pour montrer aux donateurs qu'est-ce qu'ils font. Ils ont intérêt à le faire aussi. Là. Dans un univers académique comme celui du Québec, c'est beaucoup moins le cas. On est beaucoup moins nombreux qu'en France, par exemple. Donc, il y a moins de moyens pour faire ça. C'est pas très non plus dans les milieux académiques, c'est pas particulièrement valorisé, malheureusement. Fait qu'il y a moins de... Tu sais, il y en a pas tant que ça. Il y en a, là, mais je pense au site peut-être je pense que c'est 1.5 que ça s'appelle, un site web qui font un journalisme peut-être un peu trop engagé à mon goût, mais de manière générale, ça reste de bonne qualité, là. Mais il y en a quand même quelques sources comme ça là, pour ceux qui veulent pas trop...
Mais se tourner vers l'anglais reste la meilleure option si
oui.
on veut de l'information.
Et si, comme j'ai dit, le top, là, si on veut vraiment pouvoir dire que j'ai fait mes recherches, ben, c'est de croiser les sources. Donc là, par définition, tu peux pas en avoir juste une. T'sais.
Mais tu sais, moi, ce que je retiens, surtout de ce qu'on a discuté au début, c'est que, outre un peu justement se questionner, bon, quel site est le bon en termes de sources puis la qualité des informations qui sont mises, c'est vraiment... de s'assurer que c'est une personne experte dans le domaine qui met de l'avant une information du même domaine. Moi, c'est ce que j'en retiens, là, justement.
Oui.
C'est pas parce qu'un médecin dit que le changement climatique, c'est vrai ou faux qu'il faut le croire. T'sais. Fait que s'assurer justement que l'opinion qui est prononcée, ben, la personne justement est calée dans ce domaine-là. Ouais. Moi, c'est ce que j'en retiens.
Croiser les sources, c'est pas regarder 3-4 TikTok puis si les 4 disent la même chose, tu crois
pourtant,
ça
serait si facile, tu sais. C'est ça, la fin.
Non, effectivement. Mais tu sais, c'est sûr que chez ceux qui sont moins experts, ça veut pas dire qu'ils vont dire n'importe quoi.
En effet,
oui. Il y en a qui vont vraiment, tu sais, qui sont tu sais, sur le climat, par exemple, je pense à un gars comme le physicien Normand Mousseau, qui, lui, à l'origine, était plus un spécialiste du calcul de comment les protéines se replient sur elles-mêmes.
Ah, ouais,
ce genre de système complexe-là. Là. Un gars extraordinairement brillant. Mais qui n'était pas dans le
domaine.
Qui n'a jamais fait de recherche en climatologie ni rien. Mais je veux dire, quand lui parle du climat, à toutes les fois que je l'ai entendu ou lu là-dessus, ben il disait qu'il était tout à fait sur la coche. Là, puis, fait qu'il y en a quand même qui sont bons comme ça. Mais quand tu arrives à quelqu'un qui n'est pas un expert, comment tu fais pour savoir si ce qui
c'est
est...
Ça,
là, tu vas voir des vrais experts, puis là, donc ça confirme...
C'est ça.
Ça confirme ça, OK, lui n'est pas un expert, mais là-dessus, ça reste quand même une bonne source.
OK.
Là.
actuellement, là, j'ai l'impression que les réseaux sociaux, surtout la plus jeune génération, là, notre génération est beaucoup là-dessus. Est-ce que c'est une source fiable? Est-ce qu'on peut... Y a-t-il un moyen d'utiliser les réseaux sociaux pour s'informer de manière fiable, ou c'est tout mauvais, ou il y a des choses bonnes? Ça ressemble à quoi actuellement,
non, ben c'est, le portrait? Il y a toutes sortes de sources. Sur les réseaux sociaux, c'est un instrument, c'est neutre. Du point de vue... tu sais, on pensait au début de l'Internet que l'Internet serait vraiment un outil positif et tout. Oui. Ça l'a été parce que, bon, oui, on pensait que l'Internet permettrait à la bonne information de rejoindre beaucoup plus de gens. Oui, jusqu'à un certain point, mais il s'est avéré que c'est un outil et rien d'autre. Et donc, un marteau, je peux m'en servir pour construire une belle maison, mais je peux m'en servir pour donner un coup à mon voisin. Là,
ouais.
Fait que c'est la même chose avec les réseaux sociaux. C'est juste des canaux. C'est un tuyau. Ce que tu fais passer dedans, c'est une autre question. Là, t'sais. Fait que oui, il peut y avoir moyen de se faire des...
De
bien s'informer à partir de ça, mais faut prendre le temps de valider chacune des sources que tu crois là. Un bon exemple de ça, c'est Twitter. Sur le personnellement, pendant sur Twitter, quand l'invasion de l'Ukraine a commencé, je me suis mis à chercher des bonnes sources justement sur l'Ukraine parce que ça m'a vraiment frappé la brutalité avec laquelle tu sais une démocratie était attaquée par un vieil empire complètement raciste à l'égard de l'Ukraine et tout. Bon, pour toutes sortes de raisons, ça m'intéressait beaucoup. Bref, je voulais m'informer là-dessus. Puis je me souviens de Elon Musk qui avait dit que Twitter pouvait être une meilleure source d'information, en tout cas plus rapide que les médias d'information. Bon, par la suite, Elon Musk a entrepris de prouver le contraire et de détériorer son réseau social du point de vue de toutes les façons qu'il pouvait. Mais ça, c'est son problème à lui. Mais sur l'Ukraine, moi, j'avais fait, je m'étais vraiment choisi, j'avais, au fil du temps, ça avait pris du travail, encore une fois, plusieurs heures. Pour choisir des sources. Au début, j'en avais trouvé une ou deux. Tu sais, un ancien général de l'armée américaine qui avait passé des années en Europe à la tête des troupes américaines en Europe. Et donc, qui, à ce titre-là, avait travaillé pas mal avec l'armée ukrainienne et aussi avait vu travailler un peu l'armée russe, même si c'était d'un peu plus loin. Et donc, lui avait dit dès le début de l'invasion... Ils se rendront pas à Kiev. Ça marchera pas. La façon dont ils travaillent, les Russes sont trop sloppy. Les Ukrainiens, ils ont encore du travail à faire, mais ça, je les ai vus depuis 15 ans vraiment se professionnaliser, moderniser leurs forces et tout. Ils vont être capables de les arrêter. Et bang, c'est ça qui est arrivé. Fait que là, tu sais, à partir de là, t'as une ou deux sources comme ça que tu constates qu'ils savent vraiment de quoi ils parlent.
Crédibles, ouais.
À partir de là, ils vont retweeter, relayer d'autres informations, d'autres sources, et que là, déjà, ça fait... Cette autre source-là est relayée par une source que tu sais fiable. Fait que là, tu peux regarder un peu aussi. OK, oui, ça a l'air bon aussi. Fait que là, je m'étais constitué comme ça.
Un réseau de contacts fiable.
Ouais, un fil Twitter sur l'Ukraine avec des sources fiables. Des fois, je m'étais trompé. Des fois, c'était des sources qui s'étaient avérées beaucoup trop... pro-ukrainienne et donc qui était trop optimiste au sujet de ce que l'Ukraine allait faire et pouvait faire. J'en ai vu d'autres, donc par la suite, tu sais, qui avaient dit non, l'Ukraine n'est pas capable de faire ça quand même, là, tu sais, malgré toute leur bonne volonté, tout leur savoir-faire, leur ingéniosité, ils ne sont pas capables de faire ceci, cela, tu sais. Ils n'ont pas les moyens d'eux, tu sais. Et donc, là, j'ai incorporé ces sources-là. Et au final, pendant un bon moment, là, ça l'actualité ukrainienne a ralenti, mais tu sais, quand je lisais des articles dans le New York Times au sujet de l'Ukraine, puis des derniers développements, ben souvent, je les avais lus genre 24 heures ou 48 heures avant sur Twitter. Mais donc, c'est possible de se faire des bonnes sources d'informations, une bonne liste là, tu sais, de sources à suivre sur des réseaux sociaux. Mais il faut prendre le temps de faire vraiment la critique des sources, puis qui est bon, puis s'ajuster ensuite, pour ajuster sa liste là, ceux qui s'avèrent moins bons que je pensais, les sortir, puis ceux qui j'avais peut-être sous-estimé, l'en faire rentrer. T'sais.
Mais là, tu viens de parler du New York Times.
Oui.
T'sais, sans faire tout le processus de choisir les sources, tout ça, est-ce qu'on peut dire, mettons, le New York Times, c'est une source crédible et fiable à laquelle on peut se référer? Oui,
oui, oui, absolument.
Donc, il y a différents médias comme ça auxquels on peut faire confiance là, sur l'information.
Les médias, de manière générale, les journalistes, de manière générale, sont des bonnes sources au sens qu'ils... Ce qu'on veut, c'est d'informer. On le fait de façon très imparfaite. J'ai été nombre de fois très critique du travail de mes collègues de notre industrie médiatique et de l'information en général par le passé. Je le suis toujours. On a des défauts qu'on n'a pas encore corrigés, qu'il va falloir corriger, dont un biais sensationnaliste est, je pense... des fois, on dit que les médias sont à gauche, les médias sont à droite, blablabla. Moi, je pense que le biais le plus déformant, le plus important dans ce métier-là, c'est le biais sensationnaliste.
Là, juste pour être clair, est-ce qu'on peut faire la définition du sensationnalisme?
Ben, vouloir puncher, dans le fond.
Oui, vouloir puncher, mais ça va nous faire... souvent retenir certains faits ou certaines sources plutôt que d'autres. Ça, je l'ai documenté vraiment de façon systématique. Je me suis fait des stats là-dessus que j'ai... excusez-moi de la plug, là, mais que j'ai fait apparaître dans un livre là, en 2020 sur les fake news. Mais tu sais, qui montre que... Tu sais, quand on a une trame narrative bien crunchy, là, tu sais, puis qui nous amène des clics et tout... on va avoir tendance à la retenir, celle-là, tu sais.
Oui.
Et à retenir les sources, à se tourner vers des sources qui accréditent cette trame narrative-là. Même si des fois on a des meilleures sources, plus scientifiquement beaucoup plus solides, qui la contredisent, ben là, on va les ignorer ou alors on va les faire parler au paragraphe numéro 14, tu sais. Puis, fait on a ce genre de défaut-là, mais de manière générale, les médias sont des meilleures ou bien moins pires sources que la plupart des faits TikTok. Là, pis des,
on dit que le sensationnalisme, c'est un des plus gros problèmes en ce moment à l'égard des médias. Sensationnalisme pour aller chercher plus de clics et donc ultimement aller chercher plus d'argent. Est-ce que se tourner vers un média à but non lucratif est une meilleure approche que se tourner vers un média... à but lucratif?
Non.
Non?
Okay. Non, je pense pas. C'est le même métier qui est exercé à peu près dans des conditions relativement semblables, au sens où, tu sais, un reste à la base, c'est que un journaliste, c'est quelqu'un qui est payé pour trouver des histoires à raconter. On demande grosso modo les mêmes choses aux journalistes dans les médias à but lucratif ou à but non lucratif. Et donc, on leur demande aux journalistes de trouver des histoires les plus grosses possibles, les plus crunchy possibles, de les sortir le plus vite possible, d'en trouver le plus souvent possible. Et donc, quand on paye des gens pour faire ça, ben on crée ce que les sociologues appellent un effet de structure. Là. On oriente leur comportement, on oriente leur jugement. Et donc, ils ont comme... intérêt, entre guillemets, à ce qu'une histoire, quand ça a l'air comme une bonne histoire, d'une bonne grosse trame narrative, là, tu sais, bien punchée ou épeurante, ce genre d'affaires-là, ben, les journalistes vont être inconsciemment
biaisés
et envers, tu sais, ils vont vouloir que cette histoire-là soit vraie. Mm-hmm. Parce que là, après ça, s'ils font des vérifications, chose que souvent on fait, là, mais pas assez. Là,
et des fois, les ressources et le temps ne le permettent pas.
Aussi beaucoup, effectivement. Mais tu sais, un journaliste qui fait des vérifications sur une apparence d'histoire, puis si l'apparence d'histoire se s'avère fausse, ben, le journaliste se retrouve devant rien. Il a
perdu ton contenu. Là.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Tu recommences. T'as peut-être travaillé toute la journée pour rien. Ça peut être un peu tannant. Puis après ça, tu regardes ton boss. Puis tu dis
rien donné,
j'ai rien pour toi, mon boss.
Ouais.
Mais en même temps, leur rôle, c'est ça. C'est les chiens de garde.
Et d'un autre côté, puis non seulement tu dis ça, mais d'un autre côté, si t'as d'autres journalistes qui ont travaillé sur la même chose, qui ont été un peu plus sloppy que toi, ben, eux autres vont avoir la belle grosse trame narrative.
Ils vont avoir la grosse nouvelle, ouais.
Puis là, eux autres vont l'avoir... Puis même si des fois, il y a plusieurs médias qui vont sortir la même affaire qui est fausse. Puis là, toi, t'es le seul à pas l'avoir parce que tu as fait tes devoirs, mais t'as l'air d'être celui qui est dans le champ puis qui a été complètement largué. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est un... c'est des conditions qui ne prêtent, qui n'amènent pas, qui ne prêtent pas à la rigueur qu'on devrait avoir.
Puis ça, la cause racine de ça, est-ce que c'est parce que tout part du client ultimement, donc ça part de la population puisque les gens veulent entendre. Est-ce que ça part du fait que les gens veulent justement du sensationnalisme, c'est ça qui est plus accrocheur, puis on est porté vers ça, donc c'est ça qui est donné?
C'est ça qu'on pense. C'est comme ça qu'on le mesure souvent, en bonne partie, tu sais, le nombre de clics, quels ont été cette semaine nos histoires les plus populaires et patati patata. Au soleil, bon, il y a le nombre de clics. Je suis, depuis une couple d'années, très content de voir qu'il n'y a pas juste ça maintenant. On intègre aussi, tu sais, le temps passé. En moyenne,
à lire l'article.
Ouais. Ce qui est un meilleur indicateur, plus intéressant, je pense. Mais beaucoup, dans beaucoup de cas, on s'en tient vraiment dans l'industrie, là, on s'en tient au clic. Le nombre de clics, je veux dire, ça, il y a n'importe quoi là-dedans, là. Je veux dire, est-ce que t'as bien fait ton titre, un titre bien punché, peut-être très ou trop sensationnaliste, ça va te donner des clics, mais ça va, tu sais, mais, l'affaire qui me fait hésiter, c'est que moi, dans mon travail, là, les articles que je fais souvent sont très nuancés. Je fais très documenté, très nuancé, un peu long. Fait que je fais pas ça. Je fais pas ce comment dire, ce
genre de marketing.
Je cherche pas. Le plus crunchy possible. Je fais juste essayer d'être le plus
rigoureux.
D'avoir tout le plus rigoureux exactement possible. Et malgré ça, ben, je les ai, mes clics. Souvent, mes chroniques sont parmi les plus lues. Et moi, je pense, en tout cas, là, on est dans l'auto-évaluation de mon propre travail, là, fait que ça vaut pas, sans doute pas tant que ça, ce que je vais dire. Mais en tout cas, l'interprétation que j'en fais, c'est que il y a pas juste, il faudrait en sortir de cette, il y a une porte de sortie, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est d'essayer d'être utile. Moi, ce que je fais, c'est utile pour le lecteur parce que je passe des heures et des heures à faire les validations. Et là, puisque je l'ai fait, le travail, ben, mes lecteurs n'ont pas à le faire. Et je pense que c'est pour ça que les gens reviennent à mes chroniques et c'est pour ça que j'ai mes clics. C'est que j'ai développé cette confiance-là. J'ai montré que je suis digne de confiance et que je suis utile pour les lecteurs. Fait que si on faisait plus ça, si on cherchait ça d'abord et avant tout plutôt que les clics rapides et faire du buzz sur les réseaux sociaux et patati patata, je pense que de un, on les aurait quand même nos clics et de deux, peut-être qu'on finirait par régler le très grave problème de confiance que les médias et les journalistes ont et pour lequel, sur lequel le métier ne comme moi, je vois à peu près personne essayer d'agir là-dessus, malheureusement.
Ah ouais. Mais c'est ça le plus important, au final. C'est le rôle premier du journaliste.
Oui, non, effectivement. Je veux dire, quand ta job, c'est d'informer, mais que t'as la moitié de la population... Ben ça, mais quand ta job, c'est d'informer, puis que t'as la moitié de la population qui te croit pas, ben au départ, tu peux pas faire ta job mieux qu'à moitié.
Ouais.
Mais c'est comme ça depuis des décennies. Et c'est comme, je veux dire, les journalistes, les médias laissent ça aller depuis des décennies sans jamais se remettre en question, comment on travaille, tu sais. Moi, je pense qu'il y a une grosse job à faire, mais là, on commence à sortir un peu de notre sujet.
Yes, mais écoute, je pense que ça faisait le tour, Jean-François. Fait que, gros merci à toi.